Hey, bonjour Luc.
Comment ça va? On va te démêler ton
fil. On va démêler mon fil un peu. Ouais, quand on va me donner un petit peu de lousse. Parfait. Bonjour. Ben bonjour à tout le monde. Il y a du monde. C'est le fun. Bonjour. Bonjour, bonjour.
Comment vas-tu?
Je vais très bien. Je pense que la route entre Montréal et Québec, entre Montréal et Sorel ne m'aime pas. C'est la deuxième fois qu'il m'arrive un incident. Les artistes, on a la réputation de ne pas être à l'heure. Moi, je suis un gars assez ponctuel. Par contre, là, ça fait deux fois que je viens ici. Pour moi, il y a de quoi qui marche pas. La première fois, j'ai pogné un flat et j'ai fait les 20 derniers kilomètres en m'en venant ici sur une roue complètement à terre. Et puis là, il y avait un gros accident dans le tunnel en m'en venant. Puis là, j'ai fait par exprès pour prendre une photo puis envoyer. J'ai fait attention qu'on disait parce que, tu sais, les artistes sont souvent en retard puis ils disent « Ah, il y avait tellement de trafic dans le tunnel! » C'est l'excuse numéro un. Mais là, il y avait réellement un accident.
Oui, tu m'as photographié le panneau avec
incident,
les indications. Ouais.
Voie bloquée. Écoutez, fait que désolé pour mon retard, mais c'est bien de se faire attendre un petit peu quand même. Juste un petit peu. Se faire désirer, c'est correct, tu sais.
Étienne, t'as mis sur le marché le jour de la Saint-Valentin, un best-of.
Oui.
Mes plus belles chansons. Pourquoi à ce moment-ci dans ta carrière, tu avais le goût de proposer aux gens une compilation de tes plus gros succès?
Ben, c'est une belle étape. Je trouvais que c'était une façon de boucler la boucle sur 10 ans sur disque. Je suis rendu déjà à 13 ans de carrière avec mon arrivée dans le milieu artistique officiellement, parce que je chantais dans les bars depuis plusieurs années, mais avec Star Academy en 2004. Ça fait 13 ans. Mais mon premier album date de 2006. Donc, de 2006 à 2016, ça fait à peu près 10 ans sur disque. Et là, après 10 ans, après 5 albums, 7 chansons qui ont fait des numéros 1 dans les différentes radios à travers le Québec, et le fait que je voulais aussi aller tenter le terrain à l'international, je trouvais que c'était une belle façon de boucler la boucle sur les 10 premières années d'enregistrement sur disque. Et ça faisait aussi 5 albums que je faisais sur 10 ans à chaque 2 ans. Presque date pour date, un album, 2 ans plus tard, un album, et j'en ai fait 5 comme ça. Et c'est moi, je suis un auteur-compositeur, j'ai écrit 70 chansons dans les 8 dernières années pour faire des albums. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, d'inspiration, tu sais, puis les gens se rendent pas compte, c'est que souvent, ça prend un an à écrire une 20-25 chansons pour en garder 12.
Ouais, ben oui.
Là, tu rentres en studio 6-8 mois de temps pour faire l'album, tu sors ton album, puis 3 mois après que tu commences la tournée, puis c'est déjà le temps d'écrire un autre album si tu veux en sortir un autre dans 2 ans, parce que ça va te prendre un an de l'écrire, puis 6-8 mois de l'enregistrer. Ouais. Fait que c'est une roue quand même, sans dire épuisante, parce que j'aime ça. Mais là, je me disais, bon, ben là, célébrons cette espèce de 10 années-là, puis ça me permet de faire une tournée qui s'appelle Mes plus belles chansons aussi, où je présente une espèce de biographie musicale de toutes ces années-là. Ça, j'ai pas eu la chance de le faire, parce que tu sais, quand on fait, mettons, mon dernier album, T'es toute ma vie. J'arrive en show, bon ben je faisais 11 des 12 chansons de l'album. On fait la promotion des albums, des chansons du dernier
puis
album.
Puis c'est les plus récentes que tu as écrites, donc tu as envie de chanter les nouveaux bébés.
Exactement, tu as envie de chanter tes nouvelles. Donc tu oublies souvent beaucoup de succès ou de chansons qui ont touché les gens sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième album. Là, ça me permet de faire un show qui s'appelle Mes plus belles chansons. J'ai fait un décor avec des banderoles qui affichent mes 5 album en carrière avec des photos et je raconte toutes les histoires derrière les chansons. Donc, je commence avec le premier album et c'est la première banderole qui s'illumine de « Je l'ai jamais dit à personne », mon premier album, mon premier numéro en carrière. Et là, je raconte toutes les histoires, pourquoi j'ai écrit telle chanson. Ma première soirée d'écriture avec Roger Tabra, quand Roger Tabra m'a fait découvrir l'absinthe, tu sais. J'avais jamais goûté à ça. J'ai pris un tiers de shooter, j'ai manqué de m'étouffer pendant une demi-heure de temps. Et comment on est venu à écrire « Je l'ai jamais dit à personne », tu sais. Exemple, je dis à Roger, ben écoute, Roger, t'sais, les gens me connaissent pas, j'ai été connu à Star Academy, les gens pensent que j'étais un joueur de hockey puis un chanteur de bar, t'sais, j'ai dit moi j'étais un amoureux de la poésie, de la littérature, t'sais, je veux dire aux gens tout ce que j'ai jamais dit à personne, puis là Roger me dit « Oh mais ça y est, je l'ai trouvé, tu vas leur dire, je l'ai jamais dit à personne. » C'est ce genre d'histoire-là où les gens vont se demander « Pourquoi t'as écrit « T'es ma femme, t'es la plus belle », t'sais, tu devais être en amour, pour qui t'as écrit cette chanson-là, ben les gens savent pas, mais je l'ai écrit pour personne, t'sais. J'étais célibataire, je me suis imaginé, fait que je raconte tout plein de petites histoires, puis même des histoires très personnelles. Au sens où pourquoi t'as écrit telle tune ou telle tune, je dévoile pas de nom, là, j'irai pas jusqu'à dire le nom de la fille pour qui j'ai écrit telle tune, mais je donne plein de petits détails comme ça, puis c'est un beau voyage, puis fait que c'est ça, ça me permet de prendre une petite pause aussi de 2 ans où j'ai pas à écrire, j'ai pas été en studio, et tâter le terrain pour l'international si on pourrait y revenir plus tard.
T'as parlé de Roger qui a écrit avec toi sur le premier album, Roger qui nous a quittés
il y a quelques mois.
Ça t'a fait quoi quand t'as appris le décès de Roger?
Ça m'a attristé, par contre contre Roger est un monsieur qui a vécu une vie assez rock'n'roll.
Et il avait une santé très fragile.
Santé très fragile. C'est un monsieur qui a eu, sans entrer trop dans les détails, beaucoup de difficultés, des batailles intérieures avec l'alcool, avec les drogues. Je pense que les gens s'en doutaient un petit peu aussi, là, tu sais. Donc, j'ai pas été nécessairement surpris. Parce que c'est moi, j'ai travaillé avec lui, puis même quand j'ai travaillé avec lui il y a une bonne douzaine d'années, Roger avait déjà beaucoup de difficultés avec ses démons et avec ces choses-là, sa dépendance. Donc, ça m'a touché énormément. Mais dans les dernières années, Roger n'allait pas bien, puis on n'avait presque plus de contact. Les gens, je pense qu'il était retourné en France, j'avais essayé d'avoir de ses nouvelles, donc j'étais plus tellement près de lui dans les dernières années. Mais ça a été, Roger Tabra, mon plus grand professeur.
Okay.
Pour moi, d'écriture, oui, parce que avant même de faire mon premier album, quand j'étais à l'écriture de mon premier album, j'ai eu la chance d'aller m'asseoir avec ce bonhomme-là. Pour les gens qui le connaissent moins, Roger a écrit des chansons comme N'importe quoi, Mon ange avec Éric Lapointe, a écrit des chansons pour Isabelle Boulay, pour France d'amour, pour Mario Pecha, pour tellement d'artistes. Et donc, je m'assois avec ce bonhomme-là qui est d'une culture, d'une richesse incroyable. C'est une encyclopédie, tu l'as rencontré, tu le connais. Et sa façon de structurer sa pensée, sa façon d'écrire, sa façon de compter son piétage, je fais encore ça aujourd'hui, ça me vient de Roger. Il y a une rythmique musicale à travers même des paroles avant même d'écrire une chanson. On compte les piétages. Par exemple, ma chanson, je ne l'ai jamais dit à personne, c'est des 8. C'est des pieds de 8. Okay. Il y a des artistes qui écrivent probablement n'importe comment sans se soucier de ça. Sauf que quand tu fais un texte structuré parfaitement avec des piétages de 8, de 10, de 12, il y a déjà une musicalité dans ta chanson et c'est plus facile de la mettre en musique. Ça, j'ai appris ça de Roger qui comptait son piétage sur ses doigts. Ça, je le fais encore aujourd'hui. Quand j'écris, bon, ben, mettons, je ne l'ai jamais dit à personne. T'sais. Je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai souvent menti à l'amour. J'ai pleuré la folie des hommes. J'ai été le contre et le pour. C'est des 8 et des 8 et des 8. Et si j'arrive à un 7 ou à un 9, je change de phrase, je change de mot. C'est une discipline que je m'oblige, puis je le compte comme ça sur la table.
Mais est-ce
avec
que c'est plus compliqué, donc?
Ça
parce qu'il y a une phrase que tu trouves bonne qui
marche
peut pas marcher
du tout.
Parce
que tu as un mot de deux syllabes au lieu d'une à la fin. Mais non, si c'est un 9, je ne le mettrai pas parce que c'est un 8. Et Roger écrivait des piétages en vers parfaits dans le temps de la poésie, dans le temps des grands poètes. Jamais un poète aurait mis une phrase de 9 après une phrase de 8. C'était vraiment strict. Et moi, j'ai vraiment appris à cette école-là. Puis les sonorités, il y a des mots qui se disent moins. Il y a des syllabes qui s'utilisent moins. Les syllabes, les consonnes, comment ils s'appellent ces consonnes? Les T, les P, les D. Il faut faire attention à ne pas en mettre trop dans une phrase ou les T, que ça ne sonne pas comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de ça que j'ai appris de Roger Tabra. Puis ça a été une école. J'ai fait au moins 7 ou 8 soirées d'écriture avec Roger à mes débuts comme ça. Puis écoute ça, ça a valu probablement un an d'université. Je pense pas qu'il n'y a pas une école au monde qui aurait pu m'apprendre à écrire comme ça, à structurer ma pensée, mon piétage, la façon d'utiliser les mots, puis ça, j'en serai toujours reconnaissant.
Tu parles d'un album aux 2 ans, ce que tu as fait longtemps, cette discipline-là, de dire après quelques mois, je recommence à écrire pour un prochain disque. Pourquoi tu t'obligeais à ça? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui attendent 3 ans, 4 ans avant de faire un album. Est-ce que c'est la peur d'être oublié, d'être tassé, ou c'est vraiment une rythmique que tu t'es donnée?
Je pense pas que c'était une peur. Je pense pour tout que c'était dans le sens positif, un désir. J'avais tellement envie de réussite, j'avais tellement envie que mes chansons jouent à la radio, j'avais tellement envie de prouver aux gens que j'étais un auteur-compositeur, que ça se faisait tout seul, je faisais un album, puis je vais en sortir un autre dans 2 ans, parce que c'est à peu près ça qu'on peut faire. Un album aux 2 ans, on peut pas en sortir un avant ça, là, non, quand même. Fallait faire la tournée, puis ça, mais j'avais une soif de partager mes écrits maintenant que j'étais plus connu, que j'avais une chance de sortir des albums. Je voulais que les gens entendent mes chansons, je voulais que les gens me reconnaissent comme auteur-compositeur. Je voulais faire ma marque. Je me souviens qu'après Star Academy, on était un paquet d'académiciens. Puis la première année, ils ont sorti tous des albums. Je pense que les 14 en ont sorti. Il y en a eu quelques-uns de bons, mais il y en a eu quelques-uns aussi de plutôt moyens qui ont fait des flops. Et là, le milieu était saturé. Les gens nous ont vu arriver ça, ce phénomène-là. 600 000 copies, ils étaient partout. Ils prenaient toutes les ondes radio, ils prenaient tous les magazines, toutes les revues. Fait que le métier nous avait arrivé un peu comme...
Vous avez été snobé, en fait, par le milieu.
Surtout la deuxième année. Parce que là, la deuxième année, là, ça faisait 14 qui sortaient des albums, ou à peu près. Là, ils arrivaient, ceux de la deuxième année, les gens dans le milieu nous regardaient un petit peu de haut puis de travers. Puis moi, je me souviens que j'allais voir mes idoles. J'arrivais au gala de l'artiste, au gala de la disque, et j'allais voir un gars comme Kevin Parent, tu sais, que j'avais joué toutes ses chansons d'un bar puis que j'adorais, tu sais. Puis j'allais le rencontrer, puis je lui serrais la main, puis je disais « Salut, Kevin, tu sais, moi, je suis Étienne Drapeau. Peut-être que tu m'as vu ou peut-être que tu me connais pas. J'ai fait une émission, tu sais. » Puis je dis « Là, je le sais que tu penses que je suis une petite vedette bubblegum qui va s'effacer aussi vite qu'une une vedette instantanée, là, tu sais. J'étais un gars de Star Academy, j'ai rien prouvé, là. Pour l'instant, je suis rien, là, tu sais, à tes yeux. Mais j'ai dit j'ai dit, je suis un auteur-compositeur, puis tu vas voir, un jour, tu vas entendre mes chansons, puis je vais faire des hits, puis un jour, tu vas dire, Étienne Drapeau, là, crime, il a écrit des maudites belles tunes, puis c'est un bon auteur-compositeur. Tu sais, les gens étaient fins, Kevin, il m'aurait jamais dit, ben là, parle-moi pas, ou t'es qui, toi, tu sais. Ouais. Non, il me disait, non, hey, mon chum, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir, tout ça, tu sais. Mais moi, j'avais ce désir-là de lui prouver à lui, à mes idoles, à ces gens-là, que j'allais réussir. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelques années, Kevin a sorti une tune où il nommait tout plein de noms d'artistes qu'il avait. T'sais, et moi, parmi tous ces gens-là, est-ce que tu m'aimes? On dirait qu'il s'adresse à une fille, tout ça. Puis, à un moment donné, j'entends mon nom dans la toune. Je dis, ah ben, Colin, quelques années plus tard. Puis, tu sais, j'ai rencontré aussi toutes mes idoles, toutes les gens que j'admirais. J'ai presque collaboré et développé des amitiés ou des relations de travail avec, je dirais, 75-80% de mes idoles. Mes deux grands auteurs préférés, c'était Roger Tabra et Linda Lemay. J'ai travaillé avec Roger. J'ai écrit des chansons avec Linda Lemay qui m'ont invité à chanter à l'Olympia de Paris avec elle en 2009. J'ai eu la chance de rencontrer les Michel Rivard, les Jean-Pierre Ferland, Paul Piché, qui était une de mes grandes idoles, m'a invité à chanter mes chansons à son mariage l'été dernier.
Okay.
Donc, tu sais, c'est des choses assez extraordinaires au Québec. On est un petit milieu. Puis, tu sais, genre un gars que j'aimais énormément quand j'étais jeune, j'allais le voir genre dans une brasserie avec ma mère, là, tu sais, Patrick Normand. Tu sais, moi, j'aimais la musique de Patrick Normand. J'étais peut-être un peu pas de mon temps. J'étais un ado ou j'étais un jeune adulte, puis j'aimais beaucoup Patrick Normand, tu sais. Puis quand Patrick m'a invité à chanter à son émission à la télévision, il m'a invité à souper, on est allé manger après, puis on est allé dans sa chambre d'hôtel après avec nos guitares, puis on a jammé, tu sais. On était dans la chambre d'hôtel, Patrick Normand et moi, puis il jammait des solos devant moi. Là,
j'avais... C'est pas de quoi? C'est impressionnant.
Hey, écoute, non,
c'est
mais
un des meilleurs guitaristes au Québec, de Jean Partant, Patrick
Normand. Puis tu l'as vu toute ta vie, tu l'as regardé, tu l'as admiré, puis là, il est devant toi, puis il jamme sa guitare, puis c'est un passionné, Patrick. Il est dans sa bulle, puis il joue, puis il est aussi content que s'il était sur un stage. Je suis comme ça un peu, moi aussi, quand je joue dans mon salon. Ouais, j'ai beau être tout seul dans mon salon, je joue comme si c'était le Théâtre Saint-Denis. Là, fait que j'ai vécu plein de belles choses. Puis cet album-là, mes plus belles chansons, m'amènent, en faisant des entrevues comme ça, à réaliser...
Tout ça.
Mario Pelchage, avec qui j'ai fait mon troisième album. Moi, je suis mon propre producteur, j'ai produit tous mes albums, mais le troisième album, je l'ai fait en association avec Mario. J'ai repris son rôle dans Don Juan, Fait que c'est ça, tu sais, ça me permet de faire un beau bilan, de regarder en arrière, de dire, crime, j'ai eu 5 albums, 7 numéro 1 radio, les gens sont encore là, je commence une nouvelle tournée, mes salles sont pratiquement pleine partout. Bon, je dis souvent, je ne suis pas un humoriste, je ne fais pas des salles de 2000 places, on s'entend, je fais des salles de 200, 250, dans le plus peut-être 400, mais les gens sont là, tu sais. Puis au Québec, il n'y a personne dans la chanson maintenant qui fait des salles beaucoup plus grandes que
non,
ça.
Non, effectivement.
À part les artistes qu'on voit à la voix qui passent tous les dimanches devant 3 millions de personnes, les Marc Dupré, les Marimé et compagnie, toutes les autres, on se bat toutes avec les mêmes armes, puis on fait toutes des petites salles, puis... Tu sais, je regardais des salles de 400, de 500 places. Il y a une certaine époque où des Isabelle Boulay ou Pierre Lapointe ne faisaient pas ces salles-là. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus se permettre de ne pas faire ces salles-là. On fait toutes les mêmes salles. Fait que je me dis, moi, je suis là, ça fait 13 ans. Mon public est encore là. Je gagne ma vie à faire ça. Je suis un artiste vraiment, vraiment choyé.